soirée à vous. À l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Ils sont de plus en plus nombreux à dire non à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens en masse dans la rue aujourd'hui. On sera sur place dès le début de ce journal. À la veille d'un 16e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron appelle à un retour au calme face à une situation qui, dit-il, n'est plus compréhensible. C'est une séparation, pas un divorce. Je resterai fidèle à Bordeaux, les mots d'Alain Juppé qui a officiellement démissionné aujourd'hui de son mandat de maire. Le frère de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg, interpellé après avoir menacé sur Facebook de commettre à son tour un attentat. Vers un procès pour Marine Le Pen pour diffusion d'images violentes sur Twitter. Les pharmaciens seront-ils bientôt autorisés à vendre certains médicaments sans ordonnance? Trop de risques pour les patients, répondent les médecins. Pas de foot ce soir, on verra que le calendrier est complètement bouleversé par les nombreux reports. Côté météo, c'est un défilé de perturbations qui nous attend pour ces prochains jours. Elles traversent le pays demain, dimanche, lundi, mardi et les jours suivants, avec dans leur sillage quelques gouttes de pluie, pas mal de nuages et une baisse des températures qui resteront toutefois ce week-end au-dessus des normales de saison. Prévision complète de Valérie Darmon à la fin de ce journal. Et puis je vous rappelle votre rendez-vous comme tous les soirs à 22h20 avec l'interview écho d'Emmanuel Dutheil. Emmanuel reçoit ce soir Jeanne Paulès, la présidente France de Philips Morris, alors qu'aujourd'hui le prix de paquet de cigarettes a augmenté de 50 à 60 centimes.
Europe 1.
Alger, Sétif, Oran, Tizi Ouzou, partout des rues noires de monde cet après-midi.
On est en train de marcher, on exprime notre ras-le-bol. Il faut que ça s'arrête, c'est tout.
C'est pour l'Algérie, pour le changement. On rejette ce système.
Il doit y avoir un changement. Le président est malade, on aimerait qu'il aille se reposer, il a fait sa mission, assez. C'est surtout tout le clan qui doit partir.
On est contre tout un régime, pas forcément un cinquième mandat. Il faudrait que l'Algérie fasse un peu de ménage à l'intérieur.
Les Algériens qui sont donc descendus en masse dans la rue aujourd'hui pour protester contre la perspective d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Nour Chahine, vous êtes le correspondant d'Europe 1, c'est vous qui avez tendu le micro à ces manifestants. On parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
C'est clair qu'il y a eu beaucoup plus de monde lors de cette deuxième manifestation contre le cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. On parle même d'un raz-de-marée au niveau de la capitale. Quelques manifestants pour l'instant restent regroupés dans certains quartiers d'Alger, mais le gros de cette démonstration de forces populaires a pris fin il y a un peu plus de 2 heures. Les forces de l'ordre continuent de disperser les derniers manifestants qui se trouvent à proximité des grandes institutions publiques. Et durant toute la durée de la marche, les barrages de police qui voulaient empêcher l'avancée des manifestants étaient forcés relativement dans le calme jusqu'au moment où le cortège est arrivé à quelques centaines de mètres du palais présidentiel. À ce moment-là, des échauffourées ont éclaté entre jeunes manifestants et les forces de l'ordre, pour l'instant, signalent quelques dizaines de blessés légers. Mais ce qu'il faut retenir, c'est plutôt cette grande mobilisation, ce deuxième vendredi consécutif de la marche pacifique contre un cinquième mandat de la Baïse de Bouteflika.
Merci beaucoup Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 en Algérie. En Syrie, le début ce soir de l'assaut final contre Baghouz, là où sont réfugiés les derniers combattants de l'État islamique. Dernière poche de résistance, assaut annoncé ce soir par un porte-parole des forces démocratiques syriennes. Le frère aîné de Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat de Strasbourg en décembre, interpellé à son domicile aujourd'hui. Arthur Elbachet, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Strasbourg. La police a décidé de l'arrêter suite à des messages postés sur Facebook est jugé alarmant.
Ce soir, je fais la une de BFM à 18h30, précise, tout est planifié. Voilà un des messages postés ce midi par le frère de Chérif Chekat, un grand frère du terroriste de Strasbourg, un homme de 37 ans, qui a aussi mis en ligne une photo de 5 armes posées sur un canapé, 2 fusils d'assaut, 1 fusil, 2 pistolets. Avec ce texte, tout est prêt, je demande à mes contacts de garder le silence jusqu'à ce soir. Ces messages ont été effacés dans l'après-midi. Ce soir, en revanche, on peut toujours lire celui-ci, posté un peu après les autres. Dégoûté, on est le 1er mars, pas le 1er avril. Une manière peut-être de plaider la mauvaise blague. Ça n'a pas empêché les policiers de l'interpeller tout près de chez lui et de le placer en garde à vue. Lors d'une perquisition dans son appartement, les enquêteurs ont retrouvé les armes de la photo Facebook. Il s'agit d'armes factices, nous dit une source policière. Le soir de l'attentat du marché de Noël, le 11 décembre, après que son frère avait tué 5 personnes, il s'était présenté lui-même au commissariat avant d'être placé en garde à vue, puis relâché sans poursuite. Strasbourg, Arthur Enbaché, Europe 1.
Emmanuel Macron poursuit son tour de France dans le cadre du grand débat national. Aujourd'hui à Bordeaux, il a longuement discuté avec des élus de Gironde sous les yeux du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place.
3h30 de discussion sous la verrière Art déco de la résidence préfectorale à deux pas de la place Péberlan, ici à Bordeaux, où les manifestations, chaque samedi depuis plusieurs semaines, se terminent par des heurts avec les forces de l'ordre. Alors forcément, très vite, le sujet est abordé par des élus girondins qui réclament à Emmanuel Macron le retour au calme.
Est-ce que ce pèlerinage des Gilets jaunes, alors que vous avez ouvert depuis longtemps des réunions, vont durer longtemps, ou est-ce que véritablement ce défilé insupportable va cesser.
Il est possible pour l'autorité administrative de prendre des mesures d'interdiction. Ma question, monsieur le président de la République, c'est de savoir si vous entendez donner des instructions à ce sens.
Condamnant évidemment les violences, le président de la République justifie par ailleurs les mesures prises jusqu'à présent.
Aujourd'hui, le pays a besoin d'un retour au calme. Moi, j'aime l'autorité qui est suivie d'effets et d'efficacité. Interdire partout en France les manifestations, aujourd'hui, serait sans effet. Nous avons fortement renforcé les sanctions. Elles ont été prises, la justice est au rendez-vous. Maintenant, chacun doit revenir à la raison.
Et avant de repartir, Emmanuel Macron a promis à des commerçants bordelais confrontés à de sérieux problèmes de trésorerie, une accélération des procédures pour les aider à surmonter leurs difficultés. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Bordeaux, dont Alain Juppé n'est plus le maire depuis aujourd'hui. Il a officiellement démissionné et rejoindra le Conseil constitutionnel le 11 mars. On avait déjà vu et entendu son émotion, bien sûr, lors de l'annonce de son départ. Elle était encore palpable aujourd'hui.
C'est l'émotion profonde. Je me suis installé dans le bureau de Jacques Chaban-Delmas le 18 juin 1995. Oui, c'est une date tout à fait symbolique. Voilà, mais enfin, il faut savoir trouver la page. Et comme j'ai derrière moi des équipes, devant moi, des équipes solides et qui connaissent bien à la fois Bordeaux et les dossiers, je pars en confiance.
Alain Juppé, le désormais ex-maire de Bordeaux, au micro Europe 1 de Stéphane Place. Et puis on signale que malgré l'appel à la raison et au calme lancé par le chef de l'État, de nouvelles manifestations sont prévues demain pour le 16e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, notamment à Lille pour un rassemblement européen. Ou encore à Paris, un défilé au départ de l'Arc de Triomphe a été déclaré en préfecture. L'heure est à l'apaisement entre la France et les Pays-Bas. Le ministre des Finances hollandais était à Bercy aujourd'hui. Il a reconnu une prise de participation pas très orthodoxe dans Air France KLM. Les deux pays ont décidé la constitution d'un groupe de travail pour améliorer à l'avenir leur coopération au sein de la compagnie. Bruno Le Maire, qui on le sait était très en colère avant-hier, semblait plus positif à l'issue de cette rencontre.
Nous nous sommes expliqués sur les décisions qui ont été prises par le gouvernement néerlandais sur Air France KLM. Mais nous avons surtout voulu nous tourner vers l'avenir avec un seul objectif: faire du groupe Air France KLM la compagnie aérienne la plus performante au monde. La France et les Pays-Bas sont des partenaires européens et sont des amis. Nous voulons aujourd'hui ouvrir une nouvelle page de l'histoire du groupe Air France KLM.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire au micro Europe 1 de Chanel Petit. Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Et si votre pharmacien vous délivrait des médicaments qui aujourd'hui nécessitent une ordonnance? Les médecins ne sont pas du tout d'accord. À tout de suite.
Europe 1.
Elle a eu un seul examinateur.
Oui, oui.
Pour toutes les épreuves.
Oui, oui.
Eh ben, ça a bien changé le bac.
Ah mais je parle pas du bac, je parle du contrôle technique de ma Clio.
Ah.
Avec Renault, le contrôle technique est simplifié, avec un seul interlocuteur pour le diagnostic préparatoire, la visite et la contre-visite. Contrôle technique à 99€ seulement, véhicule de remplacement inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h09 et c'est la suite de votre journal. Dans certaines régions, ils peuvent déjà vacciner. Bientôt, les pharmaciens pourront peut-être aussi vous délivrer sans ordonnance certains médicaments. Alors pas tous, évidemment, mais ceux qui concernent des pathologies courantes et assez simples à traiter, comme les angines, les cystites, les conjonctivites. Cette idée, elle vient du député de La République En Marche, Thomas Mesnier, qui va déposer prochainement un amendement et qui s'en explique au micro d'Ève Roger.
Écoutez, je crois aujourd'hui, on a un problème d'accès aux soins que tout le monde partage. Moi, j'étais médecin urgentiste avant d'être député. Il n'y a pas une journée où j'ai pas vu quelqu'un se présenter aux urgences pour une angine, pour une cystite, pour des problèmes qui ne nécessitent pas les urgences. Il faut apporter des solutions simples, utiles et pratiques et efficaces aux Français au quotidien.
Au syndicat de médecins, vous direz quoi ?
Je dirais qu'il n'est pas question de leur enlever quoi que ce soit. C'est juste une solution supplémentaire pour les patients. Ce modèle a été éprouvé à l'étranger, notamment en Suisse. Je pense que ça ne peut être qu'un plus pour les patients et absolument pas un moins pour les médecins.
Alors cette idée du député La République En Marche, Thomas Mesnier, elle devrait théoriquement séduire les clients des pharmacies qui n'auront plus systématiquement à passer par la case médecin, surtout dans certaines régions où c'est de plus en plus compliqué d'obtenir un rendez-vous. Mais elle hérisse les professionnels. Le docteur Jean-Paul Hamon est le président de la Fédération des médecins de France.
C'est vraiment une dégradation de la qualité de prise en charge des patients, et pour moi, c'est purement scandaleux. Permettre de délivrer des médicaments sans ordonnance et surtout sans examen, car les pathologies qui sont décrites sont des pathologies qui souvent nécessitent des examens cliniques. Même si c'est pas très long, il faut pouvoir palper les fosses lombaires et vérifier que la personne ne prend pas d'autres médicaments ou qu'elle n'ait pas d'allergie. Tout ça n'est pas raisonnable. Pour moi, le pharmacien, c'est une sécurité sanitaire et il ne faut pas lui faire changer de métier.
Voilà le docteur Jean-Paul Hamon avec Jiyan Bergaoui. Marine Le Pen risque de devoir s'expliquer devant un tribunal pour des tweets datant de 2005. Elle avait alors publié des photos d'exactions imputées à Daesh. Avec ce commentaire, Daesh, c'est ça, dénonçant un parallèle fait, selon elle, entre son parti et le groupe terroriste. Eh bien, le parquet de Nanterre demande un procès pour la présidente du Rassemblement national, ainsi que pour le député Gilbert Collard, pour diffusion d'images violentes, réquisition incompréhensible pour le trésorier du parti, l'avocat Valrande Saint-Just.
On ne peut que penser qu'il y a une volonté absolue de poursuivre Mme Le Pen à n'importe quel prix. Ce sont des réquisitions qui ne correspondent absolument à rien sur le plan juridique. Ce délit de diffusion d'images violentes ou pornographiques à l'intention des mineurs n'existe que dans le cas où celui qui a diffusé avait la volonté d'atteindre spécialement des mineurs. C'est un délit qui est réservé à la poursuite d'un instituteur qui montre des images pornographiques à ses élèves. Si le procureur de Nanterre n'est pas capable de comprendre ce que je viens de dire, ben c'est qu'il poursuit d'autres buts que des buts habituels.
Valorant de Saint-Just, le trésorier du Rassemblement national, joint pour Europe 1 par Virginie Riva. La mort aujourd'hui dans les Hautes-Alpes d'un Britannique de 61 ans, emporté par une avalanche lors d'une sortie encadrée de ski de randonnée dans le massif des Écrins, sur la commune du Monnetier-les-Bains, sur un itinéraire pourtant habituel de ski de randonnée qui mène à la crête Roche-Bernard. Nouveau chassier croisé pour les vacanciers, Bison Futé voit orange ce soir en Ile-de-France et demain en Auvergne-Rhône-Alpes. Dimanche, ce sera vert pour tout le monde. 8 ans après la fin des vols habités américains, la NASA et SpaceX s'apprêtent à tester une nouvelle capsule pour astronautes pour un aller-retour de 6 jours dans l'espace. Alors dans un premier temps, il n'y aura pas d'humains à bord, uniquement un mannequin prénommé Ripley. Le lancement est prévu dans la nuit depuis le centre spatial Kennedy à Cap Canaveral en Floride. L'objectif, c'est d'atteindre la station spatiale internationale dimanche avant un retour sur Terre vendredi prochain. Et si cette mission se déroule sans incident, le prochain voyage aura 2 astronautes à bord en théorie avant la fin de l'année. Et puis normalement, ce soir, à cette heure-ci, nous devrions vous parler de foot. Sauf que non, pas de match de Ligue 1. Habituellement, tous les vendredis soirs se joue au moins une rencontre. Eh bien, pas ce soir. Christophe Lamarre, le championnat vit au rythme des reports ces dernières semaines.
Oui, jusqu'ici, tout va bien. Mais il ne faudrait pas exagérer non plus. Depuis le début de la crise des Gilets jaunes, 38 matchs de Ligue 1 et 6 rencontres de Ligue 2 ont été soit décalés, soit reportés. Mais les manifestations n'expliquent pas tout. Ainsi, le président de la Ligue, Didier Quillot, accuse les préfets de recourir un peu trop facilement aux reports. Surtout quand ça les arrange et pas forcément pour des questions de sécurité. Ainsi, le Bordeaux-Montpellier, qui devait se jouer ce soir à 20h45, il a d'abord été reporté en raison du grand débat national, donc de la présence du président Emmanuel Macron. La préfecture de Gironde n'a pas voulu le décaler à demain samedi, manifestation des Gilets jaunes oblige, mais pas à dimanche non plus, en raison d'une autre manifestation. le carnaval. Résultat, Bordelais et Montpellierin joueront mardi soir. Deux autres rencontres sont d'ores et déjà reportées. Nîmes-Rennes prévue demain, même si les Nîmois ont fait appel de cette décision. Et un match de la 28e journée, Nantes-PSG. Mais là, pas de carnaval, c'est la Coupe d'Europe qui oblige à ces reports.
Et oui, le PSG qui jouera mercredi contre Manchester. Les précisions de Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1. Et puis on a une médaille d'or tricolore en cyclisme. Ce soir, le Français Quentin Lafargue a décroché le titre mondial du kilomètre en Pologne. C'est la première médaille d'or française depuis le début de cette compétition. Et un autre Français, Michael Dalméda, monte quant à lui sur la troisième marche du podium. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, ce soir Valérie Darmon, et avec demain une perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est.
Absolument Isabelle, et des Pyrénées, Hauts-de-France, elle balayera le pays d'ouest en est dès le début de la matinée en générant un temps un petit peu pluvieux sur son passage. Et puis quelques chutes de neige sont à prévoir aussi sur le relief des Alpes dès 1200 mètres d'altitude. À l'arrière, la traîne est un peu active, rien de méchant, un temps variable va alterner entre belles éclaircies, passages nuageux. Sur la moitié ouest et puis la façade est, elle, malheureusement, va rester dans la grisaille. Seul le pourtour méditerranéen et la Corse sont concernés par un temps sec, lumineux, mais avec un voile épais tout au long de la journée et des rafales de vent comprises entre 60 et 80 km/h. Les températures sont toujours au-dessus des moyennes de saison. Le matin, 2 à 8 degrés et l'après-midi, 11 à 20 degrés du nord au sud.
La météo signée Valérie Darmon sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com, juste avant l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir la présidente France de Philippe Maurice. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h16 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse avec vous, Didier Hameau, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Isabelle. Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui reste animé par les valeurs de technologie.
Je me bats un petit peu avec le micro. Le Nasdaq s'adjuge 0,83% et forte hausse, belle hausse on va dire des valeurs de technologie. Ça se termine bien à Wall Street, 7595 points. Le Dow Jones prend aussi 0,43%, une hausse un petit peu plus modeste, mais une hausse quand même, 26 points sur l'indice Dow Jones. C'est les valeurs de technologie donc qui se distinguent. Apple, plus 1,8%, 175 dollars. Amazon, plus 1,9%. IBM, plus 1%. Il y a quand même une exception, c'est Tesla. Le fabricant de voitures électriques rechute de 8% après l'annonce du lancement d'un modèle grand public de son fameux modèle 3. Ça va coûter cher. Tesla perd 8% ce soir. À l'inverse, il y a un groupe qui se distingue à la hausse. C'est le groupe de distribution Gap qui s'envole littéralement de plus de 16%, 29,50 $ après l'annonce de 276 millions de dollars de profit au quatrième trimestre. Gap ce soir, plus 16% à la clôture. Le pétrole retombe un cran en arrière, moins 1,6%. On est sous les 65 $ le baril de Brent. L'euro revient sur les 1,1350 face au dollar. Ça ne bouge pas beaucoup.
Et la Bourse de Paris, elle, a terminé cette semaine en hausse.
Encore, plus 0,47%. Ça grimpe 5265 points. Ça remonte sur le CAC 40 au plus haut de l'année, après un gain de déjà 5% au mois de février. Les rumeurs d'accord commercial entre Américains et Chinois profitent aux valeurs exportatrices. On a l'automobile qui gagne du terrain, comme Valeo, plus 4%, comme Faurecia, plus 5%, ce sont les équipementiers. Peugeot, plus 2%, Renault, plus 0,7%, avec aussi de belles immatriculations au mois de février, c'est remonté pour l'automobile. Le luxe aussi, donc du côté toujours des exportatrices, Kering, plus 3,2%, conseillé par le broker Alpha Value, et LVMH, plus 1,5%. Et puis Air France KLM, qui a connu une semaine difficile, a repris 5,4%, 11,44 € après donc une semaine très chahutée, marquée par la montée surprise de l'État néerlandais dans le capital de la compagnie aérienne.
Et on en a beaucoup parlé effectivement sur Europe 1. Alors l'exception du jour, Didier, c'est Bonduelle qui a terminé en repli.
Oui, Bonduelle, le spécialiste des légumes, a déçu la bourse en estimant que son résultat opérationnel se situerait dans le bas de ses prévisions. Le contexte reste difficile avec les distributeurs en particulier. Et le titre Bonduelle donc recule ce soir de 2,1%, 27,90 €. Sur les autres places financières, ça monte. Globalement, le DAX à Francfort, plus 0,7%, Bruxelles, plus 1,1%, Milan, plus 0,17%. On rappelle le CAC 40 en hausse de 0,47%, 5265 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon détaillé. Didier Hameau de boursier.com. Et à 22h19, c'est l'heure de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir la présidente France de Philippe Maurice.
Bonsoir Jeanne Paulès.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de Philip Morris France. Un grand merci, hein, parce que c'est la seule interview radio que vous allez accorder. Donc un grand merci d'avoir fait le choix d'Europe 1. Si on a eu envie de vous inviter, là les fumeurs s'en sont rendus compte depuis ce matin, ça coûte un petit peu plus cher de s'en griller une, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que 50 à 60 centimes d'euros en plus par paquet. On va prendre le paquet qui est chez vous, le plus vendu en France, le Marlboro Rouge. On passe à 8,80. Il a pris 60 centimes. Déjà, question toute bête, pourquoi avoir décidé, vous, d'aller au max de la hausse de la fiscalité, même un tout petit peu au-dessus?
Nous appliquons la hausse de taxes sur nos prix aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons des prix qui vont de 50 centimes, qui est la répercussion de la hausse des taxes. Et pour certains, nous avons rajouté 10 centimes, puisque, comme vous pouvez aisément l'imaginer, cette hausse de prix va amener une baisse du marché légal en France, et que automatiquement, économiquement, nous essayons de garder à peu près économiquement une règle qui soit voilà.
C'est-à-dire que vous essayez de vous rattraper, vous savez que vous allez en vendre moins, mais si vous le vendez un petit peu plus cher, au bout du bout, vous gagnerez autant d'argent. C'est ça que vous essayez de nous dire.
On essaye de voilà de se tenir économiquement à flot. Alors, puisque aujourd'hui quand même, je pense que c'est important de le rappeler, sur un prix de paquets de cigarettes, vous avez plus de 80% qui part à l'État, 9,9% qui part au buraliste et la marge des fabricants représente 7,8%.
C'est clair, le gouvernement l'a dit, le paquet de cigarettes sera à 10 euros en novembre 2020. Vous estimez que vous aurez perdu combien de pourcentage de vente à ce moment-là?
Écoutez, je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à calculer parce que pour la simple et bonne raison, c'est que oui, effectivement, dans une politique de santé publique, le prix doit faire partie intégrante, mais pas que. Mais il y a un impact important aussi qui est l'effet un peu négatif des hausses de prix répétées et fortes, qui est bien évidemment la construction d'un marché parallèle. Aujourd'hui, en France, vous avez une cigarette sur quatre consommée sur le marché français qui vient du réseau parallèle.
Alors, ça sort d'études qui sont commanditées directement par vous, les cigarettes. Et on a du mal à vérifier la réalité de ce chiffre. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes à ce point-là certaine?
J'en suis certaine parce qu'on travaille avec un institut quand même connu et reconnu, qui est KPMG, que ce sont des études que nous menons depuis plusieurs années. Donc ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la progression. Donc moi, je suis confiante des chiffres.
Vous êtes donc la présidente de Philip Morris en France. Votre principale marque chez nous, c'est Marlboro. Est-ce que malgré tout, quand on est à la tête d'un cigarettier, on peut comprendre et se dire bah, c'est normal, il faut moins fumer parce que fumer, c'est dangereux et que finalement, la politique appliquée par le gouvernement est peut-être la bonne ou la seule possible.
Oui, je pense que effectivement, une politique de santé publique, le prix doit en faire partie. Encore une fois, faut-il maîtriser les impacts négatifs. Mais au même titre qu'une réglementation aussi en fait partie. Et je crois que le gouvernement, depuis ces dernières années, a montré aussi une approche assez pionnière. Puisque la
assez pionnière, ça veut dire positif ou négatif? Bah, parce qu'on a fait le paquet neutre, on a fait ce genre de choses.
Assez pionnière dans le sens où il y a une vraie volonté d'avoir un impact positif sur le nombre de fumeurs. Et je trouve que ça, c'est bien. Mais cependant, ce qu'on peut voir aussi en parallèle, c'est que malgré cette approche pionnière, donc qui concerne la cessation et la prévention, on a quand même en France 12 millions de personnes qui consomment des cigarettes tous les jours.
Mais donc 12 millions de clients pour vous?
Peut-être.
Parce que vous sentez de dire c'est bien de trop.
Oui, mais la question là qui se pose, c'est comment fait-on, que fait-on pour ces 12 millions de personnes? Et juste un chiffre important à avoir en tête, c'est malgré les politiques de santé publique, en 2025, vous aurez dans le monde toujours plus d'un milliard de fumeurs. Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui, et la vraie question qu'on doit se poser en France, c'est que fait-on pour les 12 millions de gens qui aujourd'hui continueront de fumer?
Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est totalement paradoxal. Est-ce que c'est bien la patronne de Philip Morris qu'on a face à nous pour nous dire ça? C'est que, donc, ce que vous pensez, c'est qu'il faut quand même qu'on continue un petit peu à fumer, mais peut-être qu'on fume mieux. Donc, vous êtes en train de travailler sur des solutions alternatives. Ce que vous voulez, c'est quand même qu'on continue un petit peu à fumer, parce que c'est quand même votre raison de vivre.
Depuis des décennies, on investit pour trouver des solutions au problème des cigarettes. Vous l'avez dit, la problématique du tabac aujourd'hui, c'est pas le tabac, c'est pas la nicotine, c'est vraiment le fait qu'on brûle du tabac. Et donc, on a investi pour trouver une technologie, une innovation, évidemment renforcée par des études scientifiques qui montrent que, en chauffant le tabac, vous avez la satisfaction du fumeur sans en avoir une grande partie des méfaits. Ça ne veut pas
on
dire...
On garde l'addiction quand même. Hein.
Exactement, c'est ce que je voulais dire. Vous avez raison de le préciser. Et ça ne veut surtout pas dire que ces produits, ces alternatives, sont des produits à risque zéro. Mais ce sont des produits à risque réduit. Et tout aujourd'hui, l'engagement qui est fait de dire qu'il est important dans une politique de santé publique d'avoir les prix, d'avoir la réglementation sur le tabac, mais aussi peut-être pour ceux qui continuent et continueront de fumer, leur proposer de meilleures alternatives. Voilà pourquoi aujourd'hui
ça,
notre
vision... Ça, c'est déjà
vision...
disponible. Hein. C'est une espèce... Alors, vous ne aimez pas quand on dit ça, mais une espèce de cigarette électronique un petit peu améliorée pour garder justement le côté plaisir que peuvent avoir les fumeurs.
C'est un produit qui chauffe le tabac et qui est assez proche du rituel du fumeur pour aider justement les gens à quitter la cigarette pour aller sur des meilleures alternatives.
Et vous pensez que ça a vraiment vocation à combien de temps à remplacer la cigarette ? C'est-à-dire, quand est-ce que vous pensez que finalement le paquet de Marlboro rouge, ça n'existera plus chez nous ?
Écoutez, notre vision, et je crois que notre président Philippe Maurice International l'a dit, son rêve c'est qu'un jour on arrête de commercialiser des cigarettes. Et ça, c'est vrai.
Ça paraît presque déroutant de vous entendre dire ça. On se dit, ils sont presque faussement trop honnêtes.
Oui, alors je comprends votre angle de vue, parce que c'est vrai qu'on a une histoire et un regard sur notre société où on sait
surtout
bien qu'on manque de confiance.
Surtout qu'il y a très peu de temps, on ne peut pas dire que vous ayez beaucoup joué le jeu, les cigarettiers. Alors, il y a encore même 2-3 ans en France, quand il y a eu le paquet neutre, oh là là, mon Dieu, on avait l'impression que c'était le drame mondial, que tout allait s'arrêter.
On est tout à fait sérieux dans notre vision, qui est de créer une vision sans fumée, donc sans cigarette. Mais on est très conscient aussi qu'on n'y arrivera pas seul. Un, il faut d'abord que les fumeurs aujourd'hui soient informés de meilleures alternatives pour pouvoir faire un choix éclairé et arrêter de fumer, soit complètement, sortir des produits nicotiniques, mais pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, au moins avoir de meilleures alternatives. Et aussi le rôle du gouvernement, qui est de donner accès à l'information pour que les gens puissent justement pouvoir décider de ce qu'ils veulent faire.
Alors justement, vous allez peut-être pouvoir nous annoncer ce soir sur Europe 1 un geste de bonne volonté. Brune Poirson, qui est l'une des secrétaires d'État à la transition écologique, veut vous faire payer pour financer le ramassage des mégots. Mais là, vous êtes un petit peu moins ouvert, vous dites « pas question, ils ont qu'à se débrouiller ». Qu'est-ce qu'on fait alors ?
Alors c'est pas tout à fait vrai, on n'a pas dit « pas question, ils ont qu'à se débrouiller ». Non, ce que nous avons dit, c'est que le ramassage des mégots est une activité très court terme et que la problématique, c'est plutôt comment évite-t-on d'avoir des mégots dans la rue.
Mais elle voulait vous taxer. Donc ça, vous voulez pas, on est toujours d'accord.
Hein. Bah, en fait, vous pouvez taxer, c'est pas le problème. Mais est-ce que vous allez résoudre la problématique d'avoir des mégots dans la rue ? Non. Et ce qu'on cherche à faire, c'est comment éviter d'avoir des mégots dans la rue. Alors justement, je crois qu'il y a eu plusieurs propositions de faites. Il y a quand même un truc intéressant aujourd'hui, c'est quand vous jetez un mégot dans la rue, quand vous êtes fumeur, vous n'avez pas cette sensibilité. Vous n'allez pas jeter de papier, pourtant vous allez jeter un mégot. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a des problématiques. Donc c'est d'une part vraiment renforcer ce message. Mais si vous faites ce geste, c'est parce que peut-être vous n'avez pas à disposition ce qu'il faut pour pouvoir écraser.
Donc vous êtes prêt à payer pour mettre de plus en plus de cendriers dans les rues, c'est ça que vous nous dites ?
On est prêt à travailler et c'est ce qu'on fait.
Mais pas payer.
Si aussi, d'avoir tous les fabricants ensemble, c'est une approche collective et ça je pense que c'est important, mais comment faire pour éviter que ce soit un problème ? Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions en cours, rien n'est décidé, mais nous, et je le redis, on n'a pas dit qu'on ne voulait pas payer, qu'on ne voulait rien faire, nous avons notre part de responsabilité.
Et ben en tout cas, un grand merci. Merci d'avoir accordé cette interview exclusive à Europe 1 et d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions. Jeanne Paulès, qui est donc la présidente de Philippe Maurice en France. On se retrouve lundi, 22h20.
Merci à vous et à lundi, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les infos que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? À tout de suite. Et voici donc ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Et l'Algérie occupe la une de la plupart de vos journaux, notamment Libération, qui publie demain une photo de manifestants cet après-midi dans les rues d'Alger avec ce titre « L'élan algérien ». L'Algérie et ses fantômes, écrit Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. Malheureusement, dit-il, l'Algérie est un pays riche, peuplé de fantômes dont elle ne parvient pas à se débarrasser. Bouteflika en est le plus beau symbole, au pouvoir depuis 20 ans, invisible car impotent depuis un accident vasculaire cérébral. Le voilà encore candidat, poussé par ses affidés, prêt à tout pour garder leurs avantages dans un système corrompu. Depuis longtemps décrédibilisé, le FLN, parti fantomatique, secouant la marionnette Bouteflika, continue, lui, de verrouiller le débat politique, agitant le spectre des mouvements islamistes. Cette menace est un autre des fantômes qui rôdent au-dessus de l'Algérie. Le pays n'est pas à l'abri du chaos islamiste si Bouteflika et consorts devaient quitter le pouvoir. Et Laurent Baudin de conclure, les manifestations d'aujourd'hui sont un cri de désespoir lancé par une population privée des richesses que procurent les hydrocarbures, le tourisme ou l'agriculture. Un peuple qui voit sa jeunesse contrainte à l'immigration clandestine ou à s'exiler à l'étranger pour étudier. C'est cette absence de perspective qui fait aujourd'hui bouger les Algériens. Preuve que ce qui se joue aujourd'hui est tout sauf anecdotique. Quand l'Algérie tousse, la France s'enrhume, nous dit pour sa part Bernard Stéphan dans le journal La Montagne. le lien particulier entre les deux pays, la présence ici d'une diaspora de plus d'un million d'Algériens, l'importation du gaz, le contrôle par l'armée algérienne des frontières du Mali et du Niger rendent ces événements très sensibles. On sait qu'en cas de crise grave, de nombreux Algériens seraient tentés de trouver refuge en France. Raison de plus pour que l'exécutif français observe la plus grande prudence, sans jeter d'huile sur le feu, ni encourager. Et puis tout autre sujet dans le Figaro demain matin. Pourquoi les Français mangent moins de viande? Scandale sanitaire, maltraitance animale, souci de préserver sa santé et l'environnement. La consommation de produits carnés baisse durablement et la filière est contrainte de s'adapter. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide de Une de la Presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie ce soir de Sabrina Philippe pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabrina.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission à vous.
Merci.